bonjour, vous êtes sur IDFM Radio, c'est toute la culture que j'aime. Eh bien aujourd'hui c'est moi, c'est Agnès pour toute la culture que j'aime, du jazz, du théâtre, des invités. Voilà, je reçois Nora Kam, bonjour.
Bonjour Agnès.
Nous allons parler jazz, vous êtes saxophoniste, flûtiste de jazz. Allemande installée en France. Vous êtes en concert mercredi prochain, ce mercredi, le 25 septembre, à 20h30 au Café de la Danse. Vous serez accompagnée par quel musicien, Nora Kam?
Je serai accompagnée par 4 musiciens en tout. Il y aura Eli Froh au piano, il y aura à la batterie, Michael Nieti. Il y aura à la basse, Ranto Rakotomalala. Et à la percussion, Fab Borel Bambi.
Votre musique est très inspirée de rythmes africains, hein, d'afrobeat, de jazz. On va écouter tout de suite un premier morceau de votre nouvel album. On écoute One et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc toujours Radio IDFM pour toute la culture que j'aime avec Nora Kam, saxophoniste de jazz. Nous venons d'écouter One, ce morceau explosif à l'énergie, au tempo vif. Hein. Je rappelle que vous serez mercredi là à 20h30 au Café de la Danse. Est-ce que c'est pas un peu une déclaration à l'Afrique ?
C'est une déclaration d'amour à l'Afrique surtout. Oui, c'est vrament quelque chose qui me tient à cœur. J'exploite, c'est pas le bon mot. Je m'inspire, voilà, je m'inspire beaucoup en fait des rythmes africains. J'invite aussi des chanteurs, des chanteuses sur mes albums. Et oui, c'est vrai que ma musique, elle est beaucoup beaucoup inspirée. Par ces rythmes-là, non seulement par l'Afrique, mais beaucoup aussi.
Est-ce qu'également vos sources d'inspiration, vous allez puiser chez des grands noms célèbres du jazz, je pense à Kenny Garrett, Weather Report.
Oui, alors je pense qu'il y a tout ça. Après, c'est toujours un mélange de beaucoup, beaucoup d'influences différentes. On peut dire que je viens de la fusion. Weather Report était un des premiers groupes que j'ai écouté quand j'ai commencé à faire du jazz. Et maintenant, je m'oriente plus vers la pop, la afrobeat. Donc, en fait, il y a tout ça qui entre dans ma musique aussi.
On écoute, oui.
Ce qui a toujours été le plus important pour moi, c'est que ça soit dansant et on puisse chanter les thèmes.
On écoute tout de suite un deuxième morceau. Nora, on va écouter Chuku Chuku, donc sur votre dernier album, Nora Kam.
Avec plaisir.
Thank you. Voilà, toujours toujours en compagnie de Nora Cam, saxophoniste. On vient d'écouter Tchoukou Tchoukou. Donc, alors les sons, on disait la jazz fusion, l'afrobeat, également les mélodies du Mali, je crois, sont assez présentes dans certains de vos morceaux. Nora.
Les mélodies, pardon.
Du Mali.
Oui, tout à fait. Ben, ça, c'était surtout sur le morceau One, qui, je pense, est inspiré aussi beaucoup de périodes où j'ai écouté Salif Keita. Oui. Donc, je pense que ça s'entend.
Oui. c'est magnifique. Ce concert, donc, mercredi septembre, 20h30, hein, au Café de la Danse. On va parler un tout petit peu de votre carrière, hein, avant de conclure. Alors, vous commencez assez tôt, la flûte traversière, plutôt musique classique, hein, à 12 ans. Vous découvrez le saxo à 17 ans, puis c'est là où vous vous orientez vers le jazz très rapidement. Vous êtes remarqué. Comment s'est passée votre première expérience avec le trio Dresam?
J'ai joué très longtemps avec ce trio. Je pense que ça a été vraiment ma première expérience de création musicale. Je pense qu'on avait un son de groupe qui était assez, assez poussé vers la fin de ce projet. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé à créer aussi dans ma musique une sonorité qui soit à moi et qui soit harmonieuse. En fait, je pense que ça m'a vachement aidé, ce projet, par rapport à ça.
Et puis là, cette expérience en tant que leader, hein, pour la sortie de cet album One avec quatre musiciens. Voilà, pour vous, c'est un tournant important parce que vous êtes toutes, enfin assez, oui, vous êtes jeune. Voilà. Donc, comment vous vous sentez en tant que leader?
Je me sens très bien. Je pense que c'était le bon moment aussi pour me lancer dans mon projet. J'étais prête. Et je me sens vraiment très bien entourée de mes musiciens également, que je choisis avec beaucoup d'attention, parce que je trouve que c'est très important de créer un son de groupe. Donc voilà, je suis à ma place, je pense.
Toujours Paco, l'immense Paco Seri à la batterie et à la guitare. Qui sera avec vous?
C'était les invités sur l'album.
Oui.
J'avais invité Paco Seri. Paco Seri à la batterie et Nuenle à la guitare, oui.
Et alors, pour ce concert donc de mercredi, avant de conclure, vous pouvez, Nora Cam, nous peut-être citer leur nom du quartet.
Donc, c'est mon groupe, ça s'appelle Nora Cam.
Oui.
Avec mes musiciens, donc comme je disais, basse, batterie, oui, percussion, et clavier, synthétiseur.
Très bien.
Donc, on sera tous les cinq sur scène. Et il y a aussi une merveilleuse première partie.
Oui.
C'est une chanteuse qui s'appelle Olema. Donc, ça va être
à 19h30.
À partir de 19h30, exact.
Au Café de la Danse, donc dans le 11e arrondissement. Est-ce qu'il reste, c'est 5 passages Louis-Philippe, hein, dans le 11e mercredi. Vous savez s'il reste quelques places, Nora?
Je pense qu'il reste quelques places, tout à fait.
Très bien.
On a déjà pas mal de réservations, mais je pense qu'il reste des places.
Eh bien, écoutez, bravo encore pour cet album Leader. Bravo pour ce concert en quintette. Et nous écoutons un troisième morceau, Nora Cam, pour finir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio avec toute la culture que j'aime. On vient d'entendre Flowing People de la saxophoniste jazz Nora Kam. Et bien maintenant, allons du côté du théâtre de l'œuvre. Vous ne serez pas déçus. Restez avec nous pour parler théâtre. La pièce Ring. Et je reçois la comédienne principale Gina Djemba. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc jusqu'au 18 janvier, Gina Djemba, vous interprétez le rôle de Camille, la femme, la femme du couple. Ring, c'est une pièce de Léonore Confino, cette autrice aux multiples récompenses. Ring, alors il s'agit de 16 moments de vie, hein, de vie amoureuse, 16 rounds, un peu comme... comme sur un ring. Gina Djemba, j'ai vu la pièce. Cela pourrait être le même couple dans les 16 rounds, mais cela ne pourrait-il pas être des couples différents à chaque fois?
Alors, absolument. C'est une libre interprétation qui réside dans l'écriture de Léonore Confino, et on a beaucoup réfléchi ensemble, et en fait, laisser le spectateur voilà, se faire sa propre idée, c'est le but, sans rien plaquer. Donc, d'où l'importance de revenir sur ce prénom Camille qui revient, on s'en réfère d'autres Camille, enfin, tout est un peu mélangé comme ça, sans perdre pour autant le spectateur, mais en tout cas, il a le choix.
Il y a plusieurs scènes, donc la scène de la rencontre hein, entre Adam et Ève, rencontre que l'on peut présumer impossible, puis scène de la sensualité, celle des meilleurs copains, les reproches, et puis il y a ces scènes de crimes muets où vous mimez un peu les grimaces de la rupture. C'est très fort. Que veulent nous dire ces deux personnages?
Alors c'est à ce moment-là, pour ce tableau précis, c'est donc Mehdi Bakhi qui est chorégraphe, un ami très proche qui est danseur également, et qui nous a donc fait travailler le corps, parce que je tenais absolument à ce que le corps soit vraiment très très considéré et que ce soit un spectacle organique. Et donc il a pris cette liberté de créer des tableaux, dont ce tableau où effectivement il est question de hurlements sourds ou choses qu'on ne se dit pas, qu'on ne fait pas forcément quand on est en pleine dispute, ou ça se fait du moins autrement. Et là, tout à coup, ça explose. Et en fait, c'est assez beau parce qu'il n'y a pas de texte. C'est vraiment uniquement le corps et les expressions de nos visages qui sont impliqués et engagés. Et donc, le public, encore une fois, est libre de recevoir cette interprétation de sa façon à lui. Et c'est très fort.
Oui, la dimension chorégraphique est très importante hein, dans le spectacle, dans la pièce Ring. Vous venez donc vous êtes comédienne, actrice, hein, mais vous venez également du milieu de la musique puisque vous êtes de tessature mezzo.
J'en ai fait longtemps, de la danse classique particulièrement, et ensuite modern jazz. Donc oui.
Il y a cette scène notamment, je pense à ça dans le bain, où il lit son journal intime, on se demande si elle ne l'a pas inventé, ce journal-là.
Ça c'est pareil, c'est le génie de Léonore Confino, elle ne plaque aucune interprétation. Elle laisse toujours un champ des possibles tout à fait ouvert. Et c'est vrai que moi, en tout cas, moi, en tant que comédienne, et par rapport à la lecture, par rapport à mon ressenti, encore une fois, organique, j'aime l'idée qu'elle ne soit pas coupable et qu'elle est sincèrement et profondément empathique. Elle finit par être drôle, cette scène, parce qu'elle le voulait, Léonore. Et je trouve que du coup, ça enrichit particulièrement les intentions et les enjeux des personnages à ce moment précis.
Je pense également à au round, hein, à la scène devant la télévision où il voit en noir et blanc. Il ne sent pas l'odeur de sa femme. Il ne la voit pas. Elle est comme un bloc de béton. Et bon, je vais pas tout révéler, mais voilà. Donc là, on se demande s'il y a une continuité, hein, dans ce couple, ou si c'est d'autres personnages.
Exactement. Encore une fois, c'est tout est libre. Moi, j'ai envie de me dire que c'est un autre personnage, qu'on passe à tout à fait autre chose, d'un personnage inscrit dans un quotidien, à faller sur un canapé, à regarder la télé, mais qui finalement ne se connaît pas. Et c'est assez beau l'image de ce côté achromate de cet homme qui voilà ne reconnaît pas les couleurs. C'est assez beau de la part de Léonore, parce que c'est une scène tout à fait inédite par rapport aussi à mon métissage, par rapport à l'universalité du propos, c'est-à-dire que il lui dit très très frontalement: je t'aime, j'aime tout ce que tu es, mais il se trouve que je ne vois pas les couleurs, ou en noir et blanc, toi je te vois grise, je ne sens rien, je ne suis pas dans ce jugement arrêté, voilà, qui parfois nous empêche d'être en couple pour d'autres raisons, ou rencontrer même des amis pour ces raisons-là. Et c'est très fort ce qu'elle a fait là-dessus, encore une fois, Léonard.
Elle parle même de voler le moment. Il s'accuse d'être kleptomane. Il a volé un moment.
Absolument, oui, c'est beau, parce qu'il y a une confrontation qui se joue sur plusieurs scènes comme ça, jusqu'à la rupture. Et à ce moment précis, ils volent partir séparément, mais en réalité ils n'arrivent pas à se défaire l'un de l'autre, même dans le tumulte, même dans des moments comme ça d'éclat. Elle effectivement, mon personnage a envie de terminer, et vraiment symboliquement que ce soit elle qui marque la fin, mais non, lui n'a pas envie, et en fait c'est un espèce de jeu d'enfant comme ça, qui aura le dernier mot. Et c'est très jouissif à jouer, hein, aux côtés d'Amaury de Créancourt, qui est un acteur que j'avais choisi, que j'aime particulièrement, et qui est merveilleux. C'est un bonheur de jouer tous les soirs à ses côtés.
Oui, Ring, mise en scène par Côme de Belsis, avec vous, Gina Gemba, et votre compère Amaury de Crayoncourt. À la fin, je vais pas tout révéler, mais le message aussi que nous, on reçoit, c'est ils ont tout gâché. Ils auraient peut-être dû faire autrement, finalement. Ils ont voulu que ce soit parfait.
Absolument. Comme ça arrive beaucoup dans la vie, d'ailleurs, on peut avoir... même être installé dans une vie qu'on a décidé d'avoir, ou certaines personnes, non, c'est arrivé un peu comme ça, et on se crée une famille, et on a une espèce de cocon, on pense avoir construit certaines choses, mais en réalité, on vit en parallèle du concret de cette vie avec enfant ou sans enfant, mais en tout cas, dans le couple, se retrouver à des moments où on pourrait être extrêmement connecté, extrêmement dans le présent, et profiter de l'instant présent, de la magie de l'instant présent. Et la vie file, et l'existence avance, et jusqu'à un point de rupture, et on réalise, en regardant en arrière, que effectivement, fondamentalement, le fait de vouloir faire beaucoup de choses, voyager dans le monde, avoir beaucoup d'argent, c'est une chose, mais fondamentalement, ce qu'il reste, c'est la santé et les moments pleins, réellement et profondément vécu.
La mise en scène, un mot, canapé blanc, rideau de fond, beaucoup d'un grimace muette, hein, des voix off aussi, le piano. Le piano, et on parlait tout à l'heure de cette dimension chorégraphique. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport, parce que la pièce a été créée en 2013, hein, déjà. Et il y a eu beaucoup de changements, hein, bien évidemment, pour cette version de 2024.
Oui, j'avais contacté Léonard il y a 4 ans, du coup pendant le premier confinement, et j'avais envie de monter un texte. Je suis tombée sur ce texte-là, qui avait vachement résonné à l'époque, quand j'ai été allée voir Audrey Dana et Samy Bouajila dans une mise en scène de Catherine Chauve au Petit Saint-Martin. Et je me souviens avoir fermé les yeux pour entendre ce texte qui m'avait percuté en plein cœur. J'ai acheté immédiatement le texte en sortant du théâtre. Et après, je me suis dit, tiens, j'aimerais en faire quelque chose. Maintenant, je vais contacter cette autrice dont je connais le travail, qui connaît mon travail, qui m'a déjà vu plein de fois sur scène, mais on ne se connaissait pas personnellement, et je lui ai fait la demande assez frontale. En tout cas, voilà, j'ai tenté, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as tendance à retoucher tes textes? Ou en tout cas, elle me dit, habituellement, je ne les retouche jamais. Et au fil des conversations, elle a commencé à réécrire, à repenser des scènes, à écrire notamment une scène avec un thérapeute de couple que je lui ai demandé d'écrire, par exemple. Donc ça, c'est toute la grandeur et la profonde humanité de Léonore qui s'adapte. Elle s'adapte à son temps en réalité. MeToo est passé par là. Elle a eu 2 enfants. Elle avait envie de parler de la maternité, de la paternité. Donc c'est vraiment une version tout à fait inédite et qui n'existe pas. D'ailleurs, ça a été réédité là. Donc on est très heureux de ça.
Oui, nouvelle version. Je rappelle que Léonore Confino est une auteure aux multiples distinctions, hein, récompenses. Ses pièces, alors Building, Poisson Rouge, Les Beaux. Oui. Le village des sourds. Vous, Gina Djemba, donc comédienne, vous aviez, on va parler un petit peu de votre parcours, l'icône, hein, vous aviez incarné l'icône américaine Nina Simone, c'était en 2018-2020 au Théâtre de l'Œuf, puis au Lucernaire. Voilà, alors on pourrait parler de vos multiples rôles, Madame de Tourvel dans Les Liaisons dangereuses, cinéma aussi, alors des projets de séries, de films.
Alors oui, j'ai fait le Conservatoire National et en sortant, j'ai été prise assez rapidement. John Malkovich est venu chercher de jeunes acteurs français pour ces Liaisons dangereuses. Donc à partir de ce moment-là, John Malkovich est un mentor pour moi. C'est vraiment un référent, un guide de vie, de gym, même au-delà d'une carrière. Donc on est très proches encore aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai toujours fait de la télévision en particulier, et le cinéma a commencé à s'ouvrir. Et puis je n'ai jamais quitté les deux. Nina Simone, c'était une envie de ma part. J'ai tout monté. J'ai produit aussi le spectacle. On a commencé au Lucernaire et ensuite on a basculé au Théâtre de l'Œuvre. Donc coup de foudre absolu. C'était un grand succès. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi le Théâtre de l'Œuvre pour Ring, parce qu'on me semblait tout à fait cohérent et évident.
Merci. Merci beaucoup, Gina Djemba. C'est donc Gina. Ring au Théâtre de l'Œuvre. C'est jusqu'au 18 janvier, hein, du mardi au samedi à 20h, 55 rue de Clichy. On cite peut-être votre compère comédien, metteur en scène.
Absolument. Amaury de Créancourt, qui est très connu, je pense, dans le milieu et qui suit aussi touche à tout. Il est autant au théâtre qu'au cinéma, qu'à la télévision. Donc il est pluri, voilà, il fait beaucoup de choses. Il est merveilleux, c'est vraiment un acteur d'une générosité, d'une finesse folle. Comme de Belsize, donc il met en scène d'une manière très subtile, fine, et qui nous a fait travailler les enjeux des personnages avec un vrai souci de vérité. Il tient souvent à nous dire qu'il faut être ancré dans le présent, ici, là, maintenant. Ça a été une rencontre absolument incroyable. C'est un homme très fin, Léonore Confino, donc, et Mehdi Bati, qui est un acteur, chorégraphe, danseur de formation, et qui a exceptionnellement chorégraphié ce spectacle parce qu'il trouve être à Manu et qu'il a adoré le projet, mais c'est vrai qu'il ne le fait pas habituellement. Donc j'ai vraiment une équipe à la production, Théâtre de l'Œuvre, Théâtre Actuel, Marie Kleinman, voilà, c'est une équipe de rêve. On est vraiment très heureux.
Merci beaucoup, Gina Djembas. Bonne chance pour ce soir, hein.
Oui, merci. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
Bonne soirée, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, nous allons nous diriger en face de Pompidou, dans un petit théâtre, le théâtre Essayons, pour parler de La Chute d'Albert Camus. Et mon invité est Jean-Baptiste Artigas, qui joue le personnage principal de La Chute de Camus, également metteur en scène. Bonjour Jean-Baptiste Artigas.
Bonjour.
Voilà, quel plaisir hein, de se replonger dans ce récit d'Albert Camus. C'est pour nous, spectateurs, l'occasion de redécouvrir ce texte de manière originale. Puisque oui. Vous êtes seul en scène, vous vous adressez finalement à un interlocuteur mystérieux et vous vous accompagnez au piano. Comment faites-vous finalement qui est ce Jean-Baptiste Clamence? Parlez-nous un peu de La Chute. Qui est cet homme?
Jean-Baptiste Clamence, en tout cas celui qui prétend s'appeler comme ça, est cet homme qui se trouve dans ce bar à Amsterdam, un bar à matelots, le Mexico City, et dans lequel il attend des personnes à qui il va pouvoir s'adresser et raconter son histoire, qui est celle d'un avocat parisien qui s'est exilé dans cette ville, un ancien avocat parisien qui avait énormément de succès, mais voilà. On va comprendre qu'il a quelque chose à raconter, qui s'est passé à Paris, qu'il a fait s'exiler et se retrouver dans ce bar à matelot, un peu miteux, tenu par un gorille mutique, et où on y boit du genièvre, et où lui, il va pouvoir raconter son histoire à ses compatriotes qui se retrouvent égarés dans ce bar parmi les multiples clients de toutes les nationalités. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut dire ce à quoi il a assisté?
Ben, c'est le titre, c'est une chute. Voilà, un soir à Paris, c'est l'événement qui arrive au cœur du récit. Et moi, dans l'adaptation qui a été faite par Jacques Gallo, la structure a été respectée, c'est-à-dire que le récit se déroule en 5 journées, pendant lesquelles Jean-Baptiste Clamence donc va raconter cette histoire, dévoiler cette histoire au fur et à mesure à cet interlocuteur mystérieux auquel il s'adresse. Et en faisant lui-même un peu les questions et les réponses. Et effectivement, au milieu du récit, il y a ce récit de cet événement qui a fait basculer sa vie. Donc cette chute physique de cette femme qui s'est jetée dans la Seine va provoquer évidemment sa chute intérieure à lui qui était un personnage qui avait une très haute estime de lui-même et qui défendait la veuve et l'orphelin, comme il dit, gratuitement. Un avocat voilà, qui avait tout pour lui, mais qui n'a pas été capable d'agir conformément aux paroles et aux qu'il était capable de porter en tant qu'avocat, voilà,
oui.
Érudit.
Oui, c'est aussi une pièce finalement sur notre incapacité à agir, puisque cet homme qui voit cette femme se jeter d'un pont ne fait rien, il passe sa route.
C'est ça.
Donc c'est une pièce
c'est la
sur
lâcheté, la. C'est ce que Camus sait très bien décrire dans ses textes, dans ses livres, ses romans, ses pièces. C'est le ressenti intérieur du personnage au moment où l'événement survient, que ce soit dans l'étranger, au moment où il va tirer sur cet homme sur la plage, ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Et là, c'est exactement la même chose, c'est la description de ce par quoi il est traversé. Et ça, on l'a tous vécu. Donc, il nous dépeint le portrait de nous-mêmes, en fait. Dans un moment crucial de notre propre vie et ce qui peut survenir comme comme faiblesse et lâcheté et incapacité à agir, comme vous disiez. Effectivement.
Oui. Cet homme va complètement, ça va être un tournant dans sa vie. Il va se rendre compte que sa vie n'a plus de sens. Il devient juge pénitent. Alors, Exactement. Qu'est-ce que c'est un juge pénitent? Il s'accuse lui-même?
Oui, c'est ça. Bon, évidemment, il faut venir ou lire le texte ou venir voir la pièce pour. Il va développer tout le texte va servir finalement à développer cette notion qui est bon, qui est aussi il y a un concept un peu philosophique, mais c'est surtout voilà, c'est comment il a pu réussir à surmonter cette culpabilité et en tout cas la surmonter, vivre avec, et quelles sont ses déductions. Donc à la fin du texte, il faut évidemment l'intérêt de comprendre ce qu'il veut dire par juge pénitent et où il veut en venir, ça prend la globalité du récit, puisqu'en fait à travers différents concepts, il vient à donner la résolution à la fin et à expliquer en fait ce qu'est un juge pénitent.
Oui.
Voilà, et notamment, il dit qu'il a cette phrase dans la dernière partie du spectacle, enfin du texte, mais que j'ai reprise dans le spectacle, où il dit, puisque tout juge finit un jour pénitent, il fallait prendre la route en sens inverse et faire le métier de pénitent pour pouvoir finir en juge.
Oui.
Et voilà, ça a développé, mais...
Il est question aussi du moi, du je.
Oui. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que c'est un texte qui peut comme ça rebuter, parce que je veux pas non plus, l'idée c'est de donner envie de venir découvrir justement la pièce qui est censée, par l'incarnation notamment du personnage, donner une lecture. Et une légèreté à cette œuvre, et quelque chose de beaucoup plus accessible qu'elle ne paraît l'être, peut-être, parce que c'est un texte qu'on peut relire et toujours relire et relire et toujours y trouver des nouvelles choses, des nouveaux concepts. C'est très profond comme texte. Mais ce qui est intéressant, je trouve, et c'était aussi ça l'envie de le jouer, c'est au-delà de la beauté de la langue et de l'entendre et de le recevoir, c'était d'en recevoir un peu la substantifique moelle à travers cette adaptation et ce travail donc que j'ai fait avec Jacques Gallo, j'en parlais avant, et enfin c'est Jacques Gallo qui a fait le travail, que j'ai repris aussi avec Sophie Nicolas.
Vous avez coupé
la dramaturgie.
Oui, vous avez coupé beaucoup de. Au niveau de l'adaptation, parlons un peu de l'adaptation. Oui. Il y a eu quand même pas mal de passages du livre de couper pour cette pièce.
Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je disais. C'était l'idée, c'est que la structure et la chronologie en fait du livre a été conservée. Par contre. On a enlevé, oui, des parties sur certains concepts, parce qu'il y avait énormément de digressions dans le livre. Donc voilà, l'idée c'était de traverser l'œuvre avec, en gardant encore une fois, la substantifique moelle.
Au niveau de la mise en scène, Jean-Baptiste Artigas, deux chaises, dont une seule occupée, et ce piano, d'accord? Car vous êtes un musicien, donc vous nous interprétez justement des airs de jazz, vous êtes un très bon pianiste, je pense notamment à Thelonious Monk, alors c'est Round Midnight, c'est ça?
Oui.
Voilà.
Autour de minuit, ouais.
Ouais. Quelles sont les autres œuvres que vous interprétez dans le spectacle?
Ce sont des standards de jazz. Donc, il y a Misty, un thème d'Errol Garner. Il y a un thème de Fats Waller qui s'appelle Misbehaving. Il y a aussi un petit moment avec Just a Gigolo et. Ouais. Et puis les feuilles mortes aussi pour l'évocation de Paris à la fin. Et la volonté, c'était, donc, comme le texte se déroule en 5 journées, de, pour laisser une respiration au spectateur, et c'était de jouer de la musique, voilà, pour continuer la rêverie. Et je ne voulais pas de bande son externe, c'est-à-dire une bande son comme il y en a traditionnellement au théâtre, dans les spectacles, où on met des musiques pendant le spectacle. Je voulais pas qu'il y ait d'intervention, que tout soit fait sur scène, en fait, que tout soit fait depuis la scène.
Oui, très bien. Je rappelle, hein, donc c'est La Chute, hein, au théâtre Essayons jusqu'au 6 janvier. La pièce a souvent été jouée au théâtre, Jean-Baptiste ?
Alors, souvent, je sais pas, régulièrement, oui, c'est-à-dire... J'ai découvert. Moi, j'avais jamais vu de version de ce texte joué au théâtre. Et voilà. Mais je crois que dans les années, dans les dernières deux décennies, il y a peut-être eu 3, 4, 5 oui. Versions avec des acteurs différents.
Oui, là, c'est une formidable adaptation. Spectacle court, hein, d'1h15. Est-ce que vous recevez des lycéens, des collégiens,
oui,
des classes pour cette chute d'Albert
absolument.
Camus?
Absolument, parce que le théâtre fait un travail aussi dans ce sens-là.
De médiation.
Il est accrédité avec le Pass Culture et le Pass Culture Pro. J'ai une classe là qui va venir au mois de décembre, je sais. Et évidemment, je suis très heureux quand le public, le jeune public, le public d'aujourd'hui et de demain, donc, vient voir le spectacle, vient entendre ce texte, et ils sont ravis. En plus, je pense que il y a un amour aussi en ce moment de Camus et pour les jeunes générations, une découverte aussi ou redécouverte de cet auteur par toute une génération qui a autour de 20 ans. Et j'ai parfois la chance de discuter avec eux après le spectacle, en sortant, j'ai des échanges très très riches. J'ai été le jouer moi aussi dans des lycées pour des gens. Je l'ai donné déjà ce texte et c'est toujours très 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 intéressant.
Merci. Merci beaucoup. On va devoir se quitter. Merci Jean-Baptiste Artigas. Hein, et je rappelle, La Chute au théâtre Essayons jusqu'au 6 janvier. C'est dimanche à 18h, lundi à 19h. L'adaptation est de Jacques Gallo. Et la collaboration artistique Guillaume Destrême, dramaturgie Sophie Nicolas. Merci Jean-Baptiste Artigas.
Merci à vous.
IDFM Radio, 98FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Et bien maintenant, alors côté cinéma à Enghien, mon coup de cœur, et bien c'est porté sur, c'est juste à côté, hein, c'est au CDA d'Enghien. C'est dimanche à 16h, c'est dans le cadre du festival Retour de Cannes. C'est les films de Cannes qui ont été sélectionnés à la quinzaine. Et mon coup de cœur s'est porté sur Ma vie, ma gueule. C'est dimanche à 16h. C'est un film de Sophie Filière qui dure 1h40 avec Agnès Jaoui, Philippe Catherine. Et c'est la vie d'une femme de 55 ans qui va être un tournant de son existence. Voilà, et j'ai pensé également au festival, toujours au CDA d'Enghien, Play It Again. Alors ça, c'est samedi 28, hein, dans une bonne semaine. C'est La Partie, Play It Again. C'est un film de 1968 de Black Edwards avec Peter Sellers, Claudine Longuet, à ne pas manquer. Et c'est une histoire incroyable d'un figurant indien qui est engagé par un studio hollywoodien et qui va faire exploser le décor, du décor du film. Voilà, samedi 28 septembre. Voilà, et bien c'était donc toute la culture que j'aime. Vous retrouverez vendredi prochain, le 27 septembre, Marie-Laure avec ses invités qui vous fera voyager également du côté du théâtre. Elle recevra Hervé De Volder dans Virginie et Paul au théâtre du Ranelagh et formidable Géraldine Martineau qui incarne une Sarah Bernard au Palais Royal. Merci beaucoup chers auditeurs et je vous retrouve moi pour le vendredi 4 octobre. Très bonne soirée.
IDFM Radio, 98 FM. Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.
Vous avez des questions d'ordre juridique ? Les avocats du barreau du Val d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.
Bonjour. Retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec Toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 98 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravero sur IDFM Radio.